Écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. enfin, le voilà place du pont. Il se sent moins gêné et se paraît moins dégueulasse. Les Arabes lui font moins peur. Il se dit, je suis leur client, ils vendent leurs trucs, voilà. Reste debout sur la place. Ça palabre toujours. Des vieux, des jeunes assis sur des bancs ou debout. Guillaume regarde les vieux et se dit, sont de pauvres vieux qui ont travaillé ici sur des chantiers à s'user la santé pour envoyer de l'argent à leur famille. Il se met à avoir pitié d'eux. C'est bête, mais c'est comme ça. Voit arriver à lui le jeu de la dernière fois. Il passe devant sans s'arrêter et lui dit, suis-moi. Guillaume le suit. Le jeune dans toute l'allée. Là, Guillaume n'hésite pas à y rentrer. Le manège de la dernière fois recommence. Guillaume entre chez lui heureux et calme. Et lorsque le soir il veut écouter de la musique, il ne peut pas. Il se dit, tant pis, bientôt les fêtes, on va me donner de l'argent. Je pourrai racheter ce que j'ai vendu. Les jours passent, il se sent bien. Il fume toujours dans le jardin le soir. Tout ce qu'il prend à l'université lui plaise, il aime la littérature. Malgré qu'il se sente plus détendu, il ne s'est pas fait d'amis à l'université. Peut-être parce qu'il n'en a pas le besoin, ne retourne plus chez Laurent, n'a plus besoin de lui. Et puis Laurent, c'était pas vraiment un ami. Les filles cherchent après lui, le trouble le garçon. Il reste malgré lui fidèle à Gisèle. Pourtant, mais des fois, il voit qu'avec des filles, c'est juste pour embrasser et pleuter un peu. Il n'a pas besoin d'autre chose. Le cannabis fait fantasmer, mais pour ce qui est de la pratique, c'est autre chose. S'aperçoit, c'est que très vite, la drogue fait de moins en moins effet et qu'il faut qu'il en prenne de plus en plus. Ça fait moins effet du point de vue intellectuel, ça l'aide moins pour écrire. Mais il est comme les vieux qui, avec leurs béquilles, n'osent plus s'en passer. Malheureusement, son argent s'épuise vite. Il va de plus en plus souvent place du pont. Pour se faire de l'argent, il vend une partie de sa bibliothèque. s'intéresse de moins en moins à ses cours parce que il est pris par la drogue et a des difficultés à en avoir. Tout son esprit est pris là-dedans. Parce que le cannabis fait moins effet et même des fois il fait un effet secondaire. Il fait le contraire de ce qu'il devrait faire. Le plus souvent, il empêche de se concentrer vraiment. Le temps passe. L'hiver est là. Comme il va souvent en place du pont, il s'est habitué à son ambiance, à ce décor. C'est pour ainsi dire son décor, un des décors de sa vie. Parce qu'à part l'université, chez ses parents et place du pont, il va nulle part, il n'en a pas envie. Là, l'hiver est là, il fait froid. Des fois il pleut et c'est de la pluie d'hiver. Alors, lorsqu'il a eu son paquet, comme des fois il a attendu sur la place un long moment, à se prendre froid, avant de rentrer chez lui, j'entre dans un café arabe, dans une rue louche et sale. C'est sombre, ça sent le tabac, l'alcool et l'humidité. Les vieux sont assis à une table à jouer aux cartes avec des cartes tachées et grosses en sirotant et fumant. Une musique exotique joue. Ça doit être une cassette. Guillaume s'assoit à une table vide et attend. Il se réchauffe, il se sent bien. Et puis il vient de fumer dans une allée. Le bistotet, un petit vieux, chauve, tablier bleu, sale, torchon dégueulasse. Cigarette au bec, lui demande. Qu'est-ce que vous voulez? Guillaume lui dit, un verre de rouge. Le bistroquet essuie la table avec un torchon dégueulasse. Elle a plein de taches de... La table n'a pas été lavée depuis des mois. Le bistroquet prend un verre sale, le met dans l'eau qui a une couleur rosée. Elle non plus n'a pas été changée. Et essuie le verre avec son tablier sale. Remplit le verre d'un verre bon marché. Il se dit, c'est bien bon pour lui. Il va le lui donner. Il s'éloigne. Parce que il se dit qu'il va en demander un autre, mais il sait que ce genre de jeûne, ça boit pas beaucoup. Il est venu pour sa drogue, c'est tout. De toute façon, c'est bon. C'est lui qui fournit aux jeunes et prend 40%. Tout se négocie dans le quartier. Il en a le bénéfice. Et si le jeune ne peut pas payer la consommation, eh bien, il le fera passer dans la pièce derrière et le jeune payera en nature. Ça plaît à certains de ses clients. Lui aussi rejoint l'argent du client. Tout bénéfice pour lui. Guillaume se sent bien. Il boit à petite gorgée. Il regarde ses braves gens. Il se sent que certains, il ne sent pas que certains aimeraient qu'il passe dans la pièce à côté. Lui se dit, ils ont l'air bien. Ce sont des victimes du système qui sont obligées de se cacher pour vivre dans le système. Que c'est peut-être chez eux, qui sont peut-être chez eux des gens très importants, des chefs, et que là, ils ne sont rien. Guillaume voit qu'ils sont bien ensemble. Il a l'impression qu'ils font partie d'un même groupe. Lui a envie de faire partie d'un groupe. Il fait partie de rien. Des fois, il en a assez de sa solitude. Il aimerait se faire partie d'un groupe. Et pourquoi pas du leur? Il apprendrait leur langue, culture et même religion. Il est sûr que les autres l'accepteraient. Moi, ce serait bien d'être avec eux, de faire partie de leur famille, de jouer aux cartes et boire avec eux. Il se dit qu'il est comme Rimbaud, que lui aussi s'est intégré à eux. Ce qui est en partie faux. Mais Guillaume ne le sait pas, ne connaît de Rimbaud que le folklore gauchard. Il se voit déjà sympathisant avec eux et écrivant des poèmes. En les voyant, il se dit qu'ils détiennent la vérité, que leur religion est la bonne. Pauvre Guillaume. Mais sans qu'il s'en rende compte, la solitude, la paix, le temps passe, n'a pas envie de s'en aller. Pourtant, il le faut bien. Alors il se lève pour quitter ce lieu au chaud, si lumineux. Il ne voit pas le côté dégueulasse de la chose. Non, il voit comme côté humain, comme il dit. Et il quitte cette pièce si humaine, si chaude, avec regret. Lorsqu'il rentre chez ses parents, il trouve tout lumineux, bourgeois, sans âme, ça le dégoûte. Pourtant, chez ses parents, c'est propre, chaud, élégant. Non, pour lui, c'est de la merde. Il préfère un café dégueulasse, avec des gens dégueulasses, qui lui cracheraient dessus s'il le pouvait. Non, Guillaume voit les choses comme ça. Et puis chez lui, ça risque d'être des reproches. D'où viens-tu? Pourquoi quoi rentres-tu si tard, etc., etc. Il va directement à sa chambre. Et puis, il ne supporte plus cette ambiance. Pour lui, les bourgeois sont des bourgeois. Et va s'en fumer une en s'enfermant dans sa chambre. Sa chambre est devenue le terrier du fauve, toute dégueulasse. Il y a même à terre des canettes de bière, des barquettes de plats cuisinés qu'il a fauchés la nuit au réfrigérateur dans la cuisine. Le linge est à terre au milieu de ça. Des affiches sur le mur, sur les murs plutôt, fumusées n'importe comment. Elles représentent des groupes bizarres, jamais entendus, mais ça fait bien. Son bureau, il y a un tel bazar qu'il ne peut écrire. Guillaume, sa chambre, est devenue son refuge. Et en même temps, ça le dégoûte. Mais il ne veut rien changer de ça. Sa mère n'ose pas entrer chez lui. Et puis c'est un jeune homme. Et ça la gêne d'entrer dans la chambre d'un jeune homme. Son père n'a pas le temps. Ses parents avaient pu entrer, ouvrir cette porte, voir le décor. Peut-être auraient-ils compris le désarroi de leur fils, son trouble, sa fragilité. Il l'aurait empêché qu'il sombre dans la nuit. Mais sa mère intimidée, parce qu'il est un jeune homme maintenant, et que c'est gênant à une mère de s'occuper de lui, et son père, qui n'a pas le temps, toujours à son travail, et puis, il a un caractère très impulsif. Alors Guillaume, seul, livré seul à lui-même, à ses angoisses, il se débrouille comme il peut. Et ce n'est pas ça du tout. Les jours passent. Les fêtes de fin d'année sont déjà là, déjà et enfin là, parce que Guillaume a besoin d'argent. Il est maigre, très maigre, les yeux brillants, excité, toujours sur les nerfs, énervé pour tout. Ses parents le trouvent difficile à vivre. On ne peut rien lui dire. Alors la plupart du temps, on le laisse en paix. Son père dit, c'est un malade. Regardez-moi ça. J'ai honte d'avoir un fils comme lui. Le grand-père arrive avec sa femme. Guillaume aime beaucoup son grand-père. Il se dit que ça va détendre l'ambiance de la maison. Grand-père embrasse Guillaume et lui dit « Que tu es blanc et maigre, ça va ?» Ça va. Ça n'a pas l'air du tout d'aller. Guillaume lui dit, « Tu ne vas pas faire comme mon père ?» Mon père lui dit, « Non, bien sûr. » Et ils vont au salon s'asseoir. Maman demande, « Vous voulez boire quelque chose ?» Grand-père lui dit, « Oui, un cognac. » La femme lui dit, « Il faudrait, peut-être pas. » Il la coupe la parole et lui dit, « Laisse. » Elle dit, « Moi, une orangeade. » Maman demande, « Et toi, Jules ?»« Moi aussi un cognac. » Guillaume dit, « Moi aussi. » Elle fait la grimace. Ensuite, elle appuie pour faire venir la bonne sur le bouton. En perdit. Je vois que vous avez fait le sapin. Blanche lui dit. J'ai fait ça par habitude. Personne ne s'en aperçoit. C'est dommage. Il est très beau. Oui. Grand-mère dit. Moi non plus. Je ne le fais pas. C'est trop pénible. Et puis personne ne vient nous voir. Frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne. Vous nous apporterez trois cognacs et du jus d'orange. Bien, madame. Et la bonne se retire. On a entendu la sonnette du portail. Grand-père dit, « Qui c'est ça peut-être ? La fée Carabosse ?» Maman va voir la fenêtre. « C'est ta mère, Jules. » Grand-père dit, « C'est bien ce que je disais. » Blanche dit, « Arrête, Georges. » Le grand-père rit. Blanche dit, « Je vais aller à elle. Tu viens, Jules ? » ?»«
Oui. »
Et ils sortent. Grand-père dit,
elle va mettre de l'ambiance. Alors Guillaume, comment vas-tu?
Ça va.
Ça n'a pas l'air, tu sembles tout drôle.
Non, je vais bien. La porte s'ouvre et apparaît la vieille.
Quel temps il fait! Mais il fait trop chaud ici. Les notes de chauffage, mon Dieu, les notes de chauffage.
Maman lui dit, déshabillez-vous.
Oui, voilà ma fille.
Elle enlève son manteau noir. Elle a dessous une robe noire de toujours. Maman donne le manteau à la bonne. Demande à la vieille,
vous désirez boire quelque chose?
Oui, un drogue, un bon drogue.
Elle va s'asseoir. Regarde bien Guillaume et demande
« Qui c'est celui-là ?»
Guillaume est furieux. Grand-père dit
« Il vous faut des lunettes, c'est votre petit-fils. »
Elle dit
« Ah, je me disais bien, avec cette tête d'abruti, mais il a l'air encore plus abruti. »
Guillaume aimerait c'est la jeter par la fenêtre ou lui casser la gueule à celle-là.
Durant le repas, Guillaume n'a pas faim comme d'habitude, n'a pas envie de parler, sans plus chez lui, ici, chez lui, c'est la place du pont et les cafés arabes, là, c'est le luxe et le bien-être, il préfère c'est la crasse et la pisse. Pour lui, c'est plus lumineux, même des allées dégueulasses où il va quand on lui donne sa dose. Plus humain. Il n'a plus l'habitude de la clarté, des belles choses. Pour lui, c'est de la merde. Il s'est dit aussi que ses parents sont des hypocrites, de sales blancs blancs qui s'enrichissent et vont à la messe et qui sont hypocrites. Quoique sa famille ne va pas à la messe, mais généralise tout. Il n'a pas faim, il s'ennuie, il n'a qu'une seule envie, c'est de partir s'enfermer et pour s'enfumer une et aussi écrire des poèmes. Quoi qu'écrire, là c'est de plus en plus difficile, mais c'est comme ça. Son grand-père voit qu'il ne mange pas. Ça ne te plaît pas? Non, je lui dis, il n'a pas beaucoup d'appétit. Je lui dis, c'est un genre qui se donne. J'avais dit, il est pourri, il a tout ce qu'il veut. Et même de trop. Ça ne lui plaît pas. Eh bien, qu'il aille manger ailleurs. Moi, je vais finir ce qui ne mange pas pour éviter le gaspillage. Ou que la bonne mange le reste. Guillaume se lève, prend son assiette. La pousse vers elle et dit, tiens, les restes, notre chien est mort. Et quitte la pièce. Blanche dit à la veille, il faut l'excuser. Laissez, il m'a laissé sa part, je vais la manger moi. S'il croit que ça m'ennuie, il est fou. C'est jeune. J'ai toujours dit qu'il ne ferait jamais rien, celui-là. Même pas manger. Mon pauvre Jules, je te plains. Elle commence à manger. Jules se laisse furieux. Va vers la sortie de la porte, de la pièce. Je vais lui dire de moi, celui-là. S'apprête à quitter la salle, le grand-père va à lui. Il fait face et lui dit, laisse, je vais aller voir tout à l'heure. La vieille dit, il n'en vaut pas la peine qu'on s'occupe de lui. C'est un bon à rien, ton fils, mon pauvre Jules. Le grand-père dit, allons, à table, et ils vont s'asseoir. Je ne vais pas laisser tout ça. Je ne comprends pas pourquoi il n'aime pas ça. C'est très bon et même délicieux. Ton fils Jules est un bon à rien. Il faut le mettre en pension, hein? Je lui dis. Il n'a plus l'âge, hélas. Elle lui dit, alors, qui quitte la maison? Blanche demande, et où aurait-il vivre? Elle lui dit, il se débrouillerait, ça lui apprendra. Je suis sûr qu'il se drogue, il en a toute l'allure, la tronche. Ton fils est un voyou.
ou un fou. Faut prendre un logement à l'asile, mon pauvre Jules. Il faut que tu en fasses un autre. Celui-là est raté, bien raté. Quoique, ce n'est pas de ta faute. Ah, ça non. Blanche lui dit, c'est ni la mienne non plus. La vieille dit, il faut bien que ce soit de la faute à quelqu'un. Blanche aux épaules et dit, moi, je le trouve très bien. Tu es bien la seule. La grand-mère dit, arrêtez d'ennuyer ma fille. Moi, je n'ennuie pas, j'aide. Vous avez une drôle de façon d'aider. On fait ce que l'on peut. Et puis, Blanche, elle n'a pas besoin d'aide. La vieille lui dit, et dire que je viens ici pour donner des conseils, aider mon pauvre Jules, et voilà comment on me traite. Le grand-père dit, allons, allons, c'est Noël, arrêtez de nous disputer, ça ne mène à rien tout ça.
Guillaume est dans sa chambre. Il est agacé. Il en a marre de la vieille. Il fait les 100 pas dans sa chambre. Il est très énervé. Il aimerait se flanquer à la porte, cette salope. Il est tellement énervé qu'il prend une statuette et la jette à terre. Il en a assez de cette famille de tarés. C'est bien des bourgeois, de sales capitalistes. Lui veut des gens purs, vrais. Il n'y a que chez les éprouvés qu'il y a des gens bien purs. Tiens, place du pont, là, eux, c'est simple. Ils font des petits trafics, comme ça, pour vivre. Bien sûr, il ne connaît pas l'envers du décor. La vie simple des Arabes de la place du pont cache aussi des cris, des drames, des disputes et même des tueries pour de l'argent, etc. Là, lui, c'est le client. Il ne voit pas l'envers de la boutique. Et puis, Guillaume, pour le moment, il déteste sa famille. Donc, il déteste son milieu. Parce que dans son milieu, il est obligé, c'est de se cacher pour prendre sa drogue. Il déteste pour ça. Il déteste parce qu'il est obligé de se débrouiller pour avoir de l'argent. Parce que on ne lui en donne pas assez. Ça aussi, ça l'énerve. Toujours obligé de trafiquer pour avoir de l'argent. Ils volent dans le sac de sa mère. Il pique en évitant que ça se voie dans la bibliothèque de son père. Fauche un vase, une statuette. Ça l'ennuie de faire ça. Pas pour le vol, la morale, non. Parce que pour lui, il ne prend qu'aux riches. Mais ce qu'il l'ennui, c'est de le faire en évitant de se faire prendre. Il n'a pas honte de voler ses parents, mais il a peur de se faire prendre. Des fois, il est même obligé de demander une avance à la bonne.
qui, elle, a vu, a compris le drame qui se passait. Mais elle se moque que ses patrons se débrouillent. C'est leur affaire. Peut-être que si elle avait dit à ses parents, peut-être que ses parents auraient agi, aider leur fils à se soigner, à soigner son angoisse. Mais non, là, non plus, rien. Tout est fait pour que Guillaume puisse s'enfoncer dans la nuit. Et Guillaume s'y enfonce, sans s'en rendre compte. Ses cours, qui lui plaisaient tant, il y va de moins en moins, parce qu'il est trop occupé par la drogue et que ça l'intéresse moins. Et puis, il a tellement peur d'en manquer et de retrouver son angoisse.
On a frappé à la porte. Il sursaute. C'est rare lorsqu'on frappe à la porte de sa chambre. Il dit « Oui,
c'est moi, grand-père. Je peux entrer ?»
Il n'ose pas dire non à son grand-père. Se dit que c'est pas de sa faute s'il me voit poil.
« Entre !»
Le grand-père est entré. Il voit le foutoir. Fait celui qui ne voit pas pour pas gêner son petit-fils. Il lui demande
« Ça va mieux ?»
Guillaume me dit « Oui. » Et Guillaume va s'asseoir sur le rebord du lit, défait. Le grand-père va s'asseoir près de lui, lui tape la cuisse et lui dit
« Je vois, c'est pas facile. »
Guillaume lui dit « Tu ne vois pas, tu ne sais pas. » Grand-père lui dit
« Tu vas me dire, alors ?»
Je ne sais pas. Tu ne peux pas comprendre, grand-père lui dit.
Moi aussi, j'ai été jeune. J'ai même connu un peu mai 68. Alors ?
Guillaume lui dit, des histoires de bourgeois ? Une révolte pour bourgeois ? Le vieil homme lui dit,
peut-être bien, mais peut-être plus.
Guillaume lui dit, de toute façon, les gens de ta génération ont fait des francs blancs et les autres.
Tu as raison. On a fait, on a accéléré la venue de ces gens-là. Mais si ces gens-là sont là, c'est parce que on les a mis. Mais ce n'est pas moi. De toute façon, ils y sont. Et ce n'est pas pour ça que l'on ne doit pas être tout faire pour être heureux. Eux le sont bien. Et toi, qu'est-ce qui te manque pour être heureux ?
Guillaume lui dit, je suis très bien comme je suis. Ce sont les autres qui ne le sont pas. Grand-père lui dit,
tu te dis heureux ? Moi, je sens que ça ne va pas. Tu n'es pas très heureux.
Guillaume le dit, et comment veux-tu voir que je suis plus heureux, que je suis vraiment heureux?
Dans ta façon de te conduire, d'être plus vivant.
Mais je vis?
Oui, mais comme ça.
Quoi, comme ça? Guillaume fait un petit geste de la main pour montrer la chambre et dit,
c'est pas le décor d'un homme heureux.
Guillaume lui dit, c'est chez moi ça, et tous les jeunes sont comme ça.
Pour certains, c'est peut-être un peu moins, non? On dit que les yeux sont le reflet de l'âme, mais le décor où l'on vit l'est un peu aussi. C'est très chaotique tout ça. Et tu te démêles comme tu peux
dans tout ça ?
Guillaume lui dit : Ça me va, j'aime pas l'ordre. Grand-père lui dit :
Mais le bonheur, oui.
Guillaume lui dit : Le bonheur se trouve de partout. Vous, les bourgeois, vous croyez que le bonheur est dans une belle maison ? Grand-père lui demande :
Et toi, tu l'as trouvé où ?
Guillaume lui dit : Chez des gens simples, qui vivent dans un décor simple et pur.
J'aimerais bien voir ça.
Pour le voir, il faut être pur, autrement non.
Mais je suis pur, je le peux.
Non, pas assez. Tu verras ça d'après ton éducation. Ce que ton éducation te fera voir.
C'est-à-dire ?
Rien. Ou des choses que tu ne comprendrais pas. Mon père lui dit :
Je peux comprendre beaucoup de choses. J'ai voyagé. J'ai vu des tas de gens, de cultures, de milieux. Je peux te dire, c'est que le bonheur peut exister aussi ici, oui, dans cette maison. C'est pas le décor, comme tu dis, qui fait le bonheur. Je suis d'accord avec toi. Alors, même celui, le décor de tes parents, peut être le décor du bonheur, si tu le veux, tu le peux. Il te suffit de dire ce qui t'empêche d'être heureux. Tu as mal où ? Tu souffres pourquoi ?
Guillaume lui dit : Je ne souffre pas.
On ne dirait pas. Tu ressembles à un fantôme. Pâle comme la mort. Tu ne manges donc plus ?
En réalité, Guillaume ne mange pas beaucoup. Parce que l'argent que lui donne sa mère pour midi, il le garde pour sa drogue. Alors, il mange un morceau de pain et du chocolat. Guillaume lui dit :
Je suis bien comme je suis.
Mon père lui dit :
Eh bien, si tu te sens bien, pourquoi fais-tu cette tête-là ?
Guillaume lui dit : Je ne veux pas la tête sous les autres qui m'énervent.
Moi aussi.
Non, pas toi.
Bien, j'en suis heureux. Écoute, tu ne veux pas aller les rejoindre ?
Guillaume lui demande : C'est eux qui vous ont dit de venir me chercher ?
Non, je te jure, je suis venu de moi-même, alors.
Bon, je veux bien.
Et ils se lèvent tous deux.
Guillaume a honte que son grand-père croit qu'il quitte sa chambre pour lui faire plaisir. Alors qu'il le fait parce que les étrennes arrivent et qu'il a besoin d'argent, qu'il est obligé de le faire, de recevoir l'argent. Après, il va s'acheter sa dose et il pourra même se remplacer des CD. Les CD, lorsqu'il va en écouter, il va prendre ceux de sa mère. Il retrouve tout le monde au salon. La mère est heureuse. Elle s'approche de son fils, l'embrasse, il se laisse faire. Bien obligé, lors des étrennes arrive. Alors, Guillaume a honte et se dit qu'il n'est qu'un salaud, un imposteur, un hypocrite. Mais c'est de la faute à son éducation bourgeoise de sa famille. C'est sa famille qui le rend imposteur.
Ce n'est jamais de sa faute. Ce qui lui arrive, c'est toujours la faute de sa famille. Le moment des étrennes arrive. Guillaume reçoit des enveloppes de tous, sauf de la vieille Edith.
J'aime pas le gaspillage. Et puis, j'ai une petite pension. J'étais concierge, moi. N'est-ce pas, Jules ?
Jules lui fait « Oui ». Guillaume est devenu fourbe. Il en a honte. Il sent qu'à cause de lui, ce Noël est faux.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.